Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Aujourd'hui, c'est l'émission La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft. Picassoft, une association de Compiègne, membre du collectif Chaton, un mot dont on va largement reparler aujourd'hui dans cette émission. Pour m'accompagner aujourd'hui, donc Youssef et Yoris, deux nouveaux membres de l'association Picassoft. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et nous avons la chance et l'honneur d'avoir Engie de l'association Framasoft au téléphone. Bonjour Engie. Eh bien, bonjour Engie, comment vas-tu ?
Ça va bien.
Non, parce que
Je suis ravie de vous retrouver.
Oui, de nous retrouver parce que nous ne disons pas qu'en fait nous avons déjà raté un petit peu le début de l'émission, mais on est maintenant parti correctement. Donc, c'est parti. Youssef, je te laisse peut-être commencer par interviewer Engie.
Merci Stéphane. Alors, bonjour Engie, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire qui tu es et nous rappeler ce que sont les chatons ?
Alors, du coup, donc, je suis chargée de relations publiques au sein de l'asso Framasoft, où j'ai des activités diverses et variées, que ce soit à savoir de la communication, des relations partenariales, et aussi du coup je m'occupe en particulier du coup des dispositifs pédagogiques. Et puis je suis coordinatrice donc de Chaton, à savoir donc le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, qui est un collectif donc qui s'est monté à partir de fin 2016 sur l'initiation l'idée de l'association Framasoft, pour regrouper les différentes structures qui proposent des services alternatifs à ceux proposés par les géants du web. Voilà, ce que fait Framasoft, ce que fait Picassoft, ce que font plein d'autres structures de ce genre. Aujourd'hui, le collectif, c'est 70 structures différentes, de tailles très différentes, de modèles économiques très différents, qui proposent des services web aux internautes, qui sont des services web éthiques, qui, du coup, respectent les données personnelles. Enfin, ouais, il n'y a pas ni d'exploitation, ni de collecte, enfin, le moins possible de collecte et pas d'exploitation de ces données. Et qui, bien sûr, proposent des services qui sont basés sur des logiciels libres.
Voilà. D'accord, merci. Et donc, du coup, avec les chatons, vous aviez décidé d'ouvrir un MOOC. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, bien sûr. Donc, il y a un projet qui date d'il y a plus de 2 ans, qui est un parcours de formation qu'on a appelé MOOC Chaton, qui à terme sera en 3 modules. Donc, pour l'instant, a été publié le premier module. Le premier module s'intitule Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle. Voilà. Qui est donc un petit module, on va dire, qui est plutôt destiné à un public très large. Puisque n'importe quel internaute peut potentiellement acquérir des connaissances sur ces questions des libertés numériques, de la compréhension des comportements et des façons de fonctionner des géants du web et du capitalisme de surveillance dans son ensemble, et puis bien sûr tout ce qui relève de solutions pour justement sortir de l'emprise de ces géants pour du coup devenir davantage acteur ou actrice d'un internet qui serait à la fois respectueux des individus, respectueux du collectif et en phase avec un certain nombre de valeurs qu'on défend alors au sein de l'association Framasoft et au sein du collectif Chaton.
Voilà. D'accord. Allez, merci beaucoup. Donc juste une petite précision, on peut participer à ce MOOC même si on n'a aucune connaissance technique sur ce qu'est un navigateur web, un moteur de recherche.
Oui, alors après, la seule limite, c'est que vu que c'est un cours en ligne, il faut être capable d'aller jusqu'au site, en fait. Voilà, une fois qu'on est sur le site, tout va bien, mais effectivement, il faut quand même un tout petit minimum de compétences numériques, à savoir avoir des bases de navigation web pour tout simplement pouvoir rejoindre le cours qui, lui, est hébergé en ligne, et puis être un minimum à l'aise avec les interfaces web pour pouvoir, accéder au contenu et pas être trop paumé là-dedans. Mais on va dire que le niveau de culture numérique attendu pour suivre ce premier module, est très bas. En fait, on n'a pas d'exigence technique du tout, de prérequis très élevés, mais voilà, il y en a quand même un minimum. Si vous n'avez jamais touché un ordinateur ou jamais ouvert un navigateur web, ça va être compliqué.
D'accord. Et bon, du coup, il faut surtout avoir voilà, de la bonne volonté pour apprendre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment est-ce qu'on apprend dans un MOOC ? Qu'est-ce qui différencie apprendre d'un MOOC par rapport à apprendre dans un livre ou sur le banc d'une université ? Qu'est-ce qui fait que le MOOC, ça marche ? Qu'est-ce qui fait qu'on y apprend ? Comment on interagit avec les créateurs, avec les autres membres qui apprennent aussi ? Est-ce qu'il y a des forums, des lieux de débat ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce qu'on apprend dans ce MOOC, s'il te plaît ?
Oui. Alors, peut-être pour revenir sur la définition de MOOC, rappeler que voilà, MOOC, ça veut dire Massively Online Open Coursive, donc cours massivement ouvert en ligne, ce qui sous-entend que du coup, le cours est ouvert à un nombre de personnes très très élevé, enfin, potentiellement tous ceux qui souhaitent y aller. Et ça, c'est un élément très important puisqu'on est du coup dans un espace d'apprentissage où on va avoir des cours, apprentis, des co-étudiants, c'est pas très beau, qui sont présents et réalisent, alors chacun derrière son écran, hein, mais du coup réalisent à peu près le même accès et la même lecture de contenu. Au niveau des contenus, en fait, on a plusieurs types de contenus dans ce module. Ce sera peut-être pas le cas d'ailleurs dans les suivants, pour l'instant c'est pas calé, mais sur celui-là, en fait, on a deux types de contenus. On a des vidéos, qui sont donc des petites vidéos qui regroupent des interviews d'actrices et d'acteurs du numérique libre, des gens qui ont voilà, une pensée du coup, sur ces univers numériques et qui du coup nous font part de leurs réflexions. Tout simplement, qu'on a complété par des contenus texte et images pour, on va dire, aller plus loin, rentrer davantage dans le détail de ce qui est vu au sein de ces vidéos. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect, on est sur des on va dire, dispositifs très didactiques, plutôt descendants. Mais en parallèle, vu qu'on est dans un cours en ligne et qu'effectivement, c'est important que du coup, il y a un feedback aussi pour les apprenants. On a donc des QCM qui permettent de valider à la fin de chaque séquence pédagogique un certain nombre de connaissances, alors qui ne sont pas excluants, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas le QCM, c'est pas grave, vous avez le droit de voir la suite, puisque justement, on est dans un système de MOOC très, très ouvert. Mais ça permet effectivement voilà, de vérifier la validation des connaissances en solo, en indépendance. Et puis, on a un ensemble d'espaces de discussion entre apprenants qui permet à la fois voilà, de partager tout simplement des avis, des points de vue sur les contenus, de faire des remarques, des retours sur certains nombres d'éléments qui concernent ces contenus-là, mais plutôt vis-à-vis de l'équipe qui modère et qui s'occupe du tutorat sur ce cours. Et puis, bien sûr, après, des échanges plus informels dans d'autres cadres quand on présente effectivement le cours lui-même. Voilà. On est sur un cours en ligne qui, en termes d'interaction, n'est pas encore... pourrait D'accord. avoir davantage de choses. Le choix qui a été fait, pour des raisons aussi pratico-pratiques, a été de rester dans cette forme assez,
Et du coup, ce cours-là, maintenant qu'on sait que le premier volet est sorti, donc le cours ouvert en ligne de Framasoft, maintenant qu'on sait qu'il est en ligne, pourquoi est-ce qu'on devrait aller le voir ? Pourquoi est-ce que nos auditeurs, par exemple, ils devraient se dire « Moi, il faudrait que j'aille voir ce cours ouvert en ligne. » Qu'est-ce qui peut intéresser, du coup, les auditeurs et moi-même, par exemple, à aller voir ce cours ?
Bon, je pense que ça dépend du niveau de culture numérique qu'on a, mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous et toutes face à la même situation, à savoir qu'on utilise tous des outils ou des services en ligne qui sont proposés par les géants du web. On le fait souvent en étant assez conscient, parce que les médias en parlent de plus en plus, c'est pas terrible quand même d'utiliser Google ou Facebook, etc. Pour autant, on continue à le faire, donc... L'intérêt de ce cours, il va être de comprendre davantage pourquoi ces services sont un problème, vraiment. Et aussi de comprendre quelles étaient les origines d'Internet, comment est structuré Internet et en quoi ces géants du web du coup, ont transformé l'idée initiale d'Internet pour recentraliser. Internet était un réseau décentralisé, là on se retrouve du coup avec... une recentralisation, on va dire, du système. Donc ça permet d'avoir des connaissances un peu plus pratico-pratiques là-dessus. Et surtout, c'est bien beau de prendre conscience de tout ça et de comprendre ce qui se joue derrière cette domination des géants du web. Mais surtout, c'est comment on fait pour se réapproprier un Internet qui soit davantage citoyen, qui nous permette effectivement de ne plus être les objets, les clients, les produits, puisqu'on a eu tout ça à la fois, de ces services, en utilisant du coup d'autres solutions, sachant qu'on présente plusieurs types de solutions, mais toutes basées effectivement sur ce qu'est le cœur, on va dire, de l'activité Framasoft et Chaton, à savoir les logiciels libres.
D'accord, merci beaucoup. Du coup, j'imagine que c'est pas Facebook qui finance ce MOOC.
Pas du tout. Non, le MOOC est financé. Alors, du coup, on est deux producteurs sur ce MOOC, donc Framasoft et la Ligue de l'enseignement, donc un très très gros réseau d'éducation populaire. Et il est en partie financé par l'AFNI, qui on a du coup une petite subvention de l'AFNI qui nous a permis effectivement de pouvoir faire tourner les vidéos, avoir des professionnels typiquement pour les monter, etc. etc.
Et puis il y a eu des dons spécifiquement orientés vers ce MOOC, Engie, ou pas encore? C'est pour les prochains que Framasoft a fait un appel, tu peux nous rappeler?
Non, en fait, alors nous, on ne fonctionne pas trop comme ça. En fait, nos dons sont rarement ciblés, sauf vraiment des cas très spécifiques. Donc voilà, on va considérer que l'ensemble des dons qui sont faits à l'association Framasoft, il y a une partie de ces dons qui sert au financement des MOOC, de la production de MOOC. Mais en tout cas, c'est pas ciblé dans l'appel qu'on peut faire. J'ai juste qu'à un moment, si voilà, les gens veulent voir arriver le module 2 et le module 3, effectivement, il faut qu'on ait des dons, mais voilà, sans forcément que les gens nous précisent ils font le don. En fait, ça fait partie de l'enveloppe globale, on va dire.
Ok. Ok, on va peut-être, parce qu'on a commencé déjà à en parler, mais on va peut-être aller en écouter un petit bout de ce MOOC. Donc ce que je vous propose, c'est un premier extrait dans lequel on devrait entendre Magali Garnero, qui est une militante de l'April et une libraire. Je vous conseille particulièrement sa librairie à Paris. On devrait entendre Laura Aufrère, qui est une doctorante qui travaille sur les communs culturels. Et puis Julien de l'association Ping. Et donc, c'est parti, j'envoie.
Pour moi, Internet, c'est un lien, c'est un réseau social, c'est une encyclopédie, c'est le moyen de garder le contact, c'est de l'information qui est offerte au grand public. En fait, c'est tellement de choses que c'est une sorte de vie à côté de la vie réelle. Pour moi, le numérique, il est partout. Que ce soit politiquement avec les projets de loi qu'on a rencontrés ces derniers temps sur la République numérique, sur la surveillance, sur le droit d'auteur. Il peut être aussi au point de vue économique, avec tous les brevets qui sont posés par toujours les mêmes grandes entreprises que tu as citées. Il peut aussi être écologique avec l'obsolescence programmée. Voilà, je vous balance plein de termes comme ça, mais c'est exactement ça le quotidien du numérique. Il peut être culturel. Moi, je suis libraire, je vends des livres en format papier. Il y a une certaine concurrence avec le livre numérique. Donc, on vend des livres numériques, il y a des DRM qui sont posés sur ces livres numériques qui privent les lecteurs de leur liberté. Bref, le numérique, il est partout. Et puis, il est dans vos poches, on a tous des téléphones portables. D'ailleurs, on devrait arrêter de dire téléphone portable, c'est des ordiphones qu'on a, c'est carrément des ordinateurs. D'ailleurs, mon téléphone portable est plus puissant que l'ordinateur que j'avais il y a 15 ans. Donc, il est partout. Et alors, je ne parle même pas d'objets connectés. Si on regarde les montres, les applications qui sont mises en place partout avec OK Google, Allo Siri, Alexa et compagnie, on est totalement envahi par le numérique.
Qu'est-ce que c'est Internet? Il me semble que c'est un nouvel espace public, non pas au sens de quelque chose qui serait de l'ordre d'une place, mais de quelque chose qui se tisse entre les individus et donc qui se reconfigure un espace de conversation et d'échange qui se reconfigure à mesure des liens qui se forment entre les personnes qui l'animent. Donc c'est peut-être plus un espace d'animation publique qu'un espace public au sens figé. Si on admet, en partant du postulat qu'Internet est un espace d'échange et que c'est un espace qui se matérialise par les échanges, sur le plan presque, j'allais dire, anthropologique, avec toute la modestie que j'aurais à aller sur ce champ, il me semble que ça doit être pris comme tel, c'est-à-dire comme un espace qui... dont les règles d'échange ne peuvent être fixées que par un processus de délibération collective. Ça, il me semble que c'est important de le dire parce que ça évite d'avoir une entrée technique qui justifierait l'hyperconcentration qu'on connaît aujourd'hui. Après, sur le plan technique, c'est un fait qu'il y a sans doute, en tout cas d'après ce que j'en comprends, des besoins d'investissement très fort pour assurer un développement technologique suffisamment solide pour qu'il assure une distribution pleine et entière. Néanmoins, ce type d'investissement infrastructurel ne doit pas nous dédouaner d'une délibération collective. En revanche, ça repose la question de savoir quel est le meilleur espace dans lequel une délibération collective peut trancher sur des dispositifs infrastructurel aussi important. Et ça, d'habitude, c'était quand même le rôle d'un espace étatique, non pas au sens d'une pure institution, mais bien comme un espace politique qui permet de poser la question de l'intérêt général. Donc, pour résumer un petit peu, il me semble que l'Internet, c'est à la fois cet espace de micro-délibération ou de micro-échange ou mezzo ou macro en fonction du sujet et en fonction de la façon dont on l'organise. Mais sur le plan de l'infrastructure, qui peut-être doit permettre de penser des choses plus concentrées, alors cette conversation plus concentrée doit permettre de prendre en compte l'intérêt général et le mettre au cœur de la délibération.
On a mis en place des petits ateliers la semaine dernière, c'est quoi Internet ? Et on a un peu tous partagé le fait de ne pas réussir tous à avoir la même définition de ce qu'est Internet. Donc chacun avait sa vision, à quoi ça me sert Internet, en général on dit plutôt ça. Dans la discussion, les gens mélanger un petit peu les plateformes web avec le côté Internet, le câblage, les réseaux et tout ça. Donc nous on a réexpliqué, moi c'est ce que je réexplique en général, que Internet c'est d'abord des connexions entre des ordinateurs faits par des câbles ou des ondes Wi-Fi ou d'autres ondes, sur lesquelles on rajoute différents services. Et le plus connu c'est le fait d'aller sur les pages web. Donc voilà un petit peu comment on explique Internet, en montrant des câbles Internet et des câbles réseau.
Eh bien, bonjour à tous, rebonjour, on est de retour dans le studio. En fait, on n'a pas bougé, on a juste passé un son en parallèle. Est-ce que quelqu'un veut réagir un petit peu à ce qu'on a entendu ? Youssef, à toi.
Oui, en fait, je trouvais ça intéressant quand Laura Oufrère parlait de... il me semble que c'est Laura Oufrère qui parlait d'Internet comme un espace civique, un peu à la manière de ce que l'humanité a pu connaître à la Grèce antique avec l'Agora, et que je trouve ça intéressant que du coup Framasoft propose un MOOC, que les chatons proposent un MOOC dans lequel on peut apprendre des choses sur Internet, justement, un peu comme quand on pouvait apprendre des choses en allant à l'Agora, et ce genre de choses.
Et de la même manière, moi, j'étais intéressé par le fait qu'il rappelle comment est-ce qu'on doit expliquer qu'est-ce qu'est Internet, parce que finalement, effectivement, il y a une grosse mauvaise conception de ce qu'est Internet. Les gens, quand on leur parle d'Internet et qu'ils ne sont pas du tout sensibles au sujet, ils s'imaginent la première page sur laquelle ils tombent. Donc, soit c'est leur accueil de leur navigateur, soit c'est Google. Et parce que c'est par là qu'ils accèdent à la plupart des données, mais ça, c'est qu'une petite partie d'Internet, c'est le web. Et voilà, rappeler que Internet, c'est avant tout du matériel, une infrastructure, et que c'est au final que certains services qui s'avèrent être ceux par lesquels on accède et qui font la mauvaise conception qu'on a de tout ce qu'est Internet dans sa globalité.
Ouais, chercher à avoir une compréhension un peu plus technique, ça devrait nous aider effectivement à délibérer. Je ne sais pas, Angie, si tu veux ajouter quelque chose ou si on passe direct.
Peut-être pour expliquer, il y a des choses qui de toute façon, étaient prévues dès le départ, mais aussi... on s'est assez vite rendu compte en fait que du coup il y avait une vraie méconnaissance de compréhension entre Internet et le web, que du coup c'était deux termes qui étaient utilisés comme des synonymes de façon générale, alors que dans les faits on parle c'est vraiment pas la même chose. Et donc on a passé pas mal de temps du coup à se dire qu'il fallait qu'on développe des contenus pour expliciter tout ça, pour effectivement arrêter cet usage qui fait que en fait on se rend pas trop compte de ce que c'est, d'où ça vient et comment ça fonctionne. Et dans ce premier module du MOOC, il était vraiment essentiel qu'il y ait une compréhension du fonctionnement de l'architecture, on va dire, alors pas que technique d'ailleurs, parce que du coup elle peut être aussi une architecture logique en tout cas, mais que cette architecture-là, si on la comprenait pas, on pouvait pas comprendre ce qui se passait avec les géants du web et leur centralisation. Bon, et que du coup il nous fallait passer quand même un certain nombre de temps à essayer d'expliquer ce que c'était pour comprendre en quoi on a perdu les origines de la construction de ce réseau de réseaux.
Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on aborde ici assez régulièrement dans nos émissions. Les questions de la décentralisation, de la recentralisation, le fait effectivement de voir le web comme unique point d'entrée nous fait oublier qu'il y a des protocoles comme le mail, par exemple, qui n'en ont pas besoin. Et donc, on peut s'envoyer des mails autrement que par des interfaces web. Un certain nombre de sujets qu'on aborde ici. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par ces aspects, eh bien, une occasion de les approfondir en allant sur ce MOOC. On peut redonner encore l'URL, Angie, s'il te plaît ?
J'ai pas entendu, pardon, excuse-moi.
est-ce que on peut redonner l'URL du MOOC chaton,
chaton, allons-y. Très facile, MOOC, m2oc.chaton au pluriel, comme des petits chats, .org, tout simplement.
Ok.
Et alors, peut-être pour préciser, du coup, le MOOC est accessible même sans inscription. Voilà, la seule différence, c'est que si on s'inscrit pas... pour accéder au contenu. On a juste accès au contenu, on ne peut pas faire toutes les activités du coup, qui sont interactives. Voilà. Mais c'est possible de... Voilà, de même, on va jusqu'au bout de notre démarche, qui est que quand même, on n'est pas des gens qui souhaitons collecter des données personnelles chez les chatons. Et donc, on a permis l'accès aux cours sans aucune identification pour ceux qui du coup, souhaitent rester... le plus neutre et invisible du coup dans cette pratique-là. Et juste, je voulais préciser aussi, voilà, là on a entendu 3 intervenants, en tout on a interviewé 12 personnes et on a essayé de trouver des personnes qui étaient vraiment avec des backgrounds très très différents. Là on entend Laura Auffray, effectivement, qui a un positionnement du coup plutôt de chercheuse, d'anthropologue, qui du coup prend une distance très très différente de Julien qui, en tant que médiateur numérique, effectivement sur un espace numérique, va être très dans le faire et la pratique, et on a essayé de mixer ça pour avoir une vision globale qui toucherait du coup tous les champs possibles autour des différents sujets qu'on traite. Voilà.
Merci bien. Eh bien, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne sur un second extrait. Donc, on va retrouver à nouveau Laura Auffray et on va entendre cette fois-ci Antonio Cassilli, qui est sociologue et auteur d'un ouvrage qui s'appelle « En attendant les robots ». Et donc, j'envoie un deuxième extrait.
Il me semble que les GAFAM, les Natou et les Batix et autres finalement organisations qui ont absorbé des fonctions tout à fait transversales, pas seulement à l'espace qu'est Internet, mais à l'extension d'Internet dans nos pratiques, c'est pas seulement une concentration économique, c'est une concentration économique, politique et sociale. C'est-à-dire que les outils qui sont proposés sont à la fois des outils qui sont pensés sur un plan très concentré qu'on n'arrive plus à discuter collectivement, mais qui en plus contraignent nos pratiques collectives, sociales et politiques. Et je crois que c'est ça le cœur de la conversation. Et là, et évidemment, ça comprend la dimension économique et l'extrême domination de ces organisations. Et je rajouterais une chose qui me semble importante, qui est cette dimension de colonialité telle que le montre Antonio Cassilli, c'est-à-dire qu'on retrouve au plan international et sur le plan de la distribution économique internationale des phénomènes de domination qui sont absolument abjects. On sait que ces organisations sont assises sur une domination économique absolument qui contrevient à tous les droits fondamentaux humains pour lesquels nous, nos pays se sont battus, en fait.
Pas mal de personnes parlent de colonialisme numérique et s'inquiète de l'arrivée d'un colonialisme numérique, voire d'une colonisation numérique. Et ma position est que, tout en ne pas voulant nier les risques, je préfère plutôt employer le terme colonialité, justement pour éviter que, surtout quand on est des hommes blancs vivant, cis, vivant dans un pays industrialisé, on se mette dans une situation d'appropriation d'une catégorie qui a été développée dans certains contextes historiques et donc qu'on ne cherche pas à galvauder une notion qui a son importance encore aujourd'hui. Donc la question de la colonialité est la suivante. C'est un concept qui a été introduit par un sociologue vénézuélien qui s'appelle Quijano, Aníbal Quijano, qui parlait de colonialité du pouvoir. Et dans son analyse, qui remonte au début des années 90, il y aurait une manière du capitalisme actuel de se présenter comme une dynamique coloniale, comme une dynamique qui crée effectivement des personnes subordonnées ou des catégories même ou des pays entiers complètement subordonnés à une logique d'extraction de la valeur et que cette valeur est par la suite utilisée, appropriée et centralisée ailleurs. Donc il y aurait en effet des formes de dépendance économique, d'asymétrie de pouvoir qui se manifestent autant au niveau géographique, autant au niveau politique qu'au niveau économique. Et que ceci est par la suite, et suivant les travaux d'autres personnes, devenu même une dimension qui structure la subjectivité des personnes. Okay ? La subjectivité des personnes dans le capitalisme actuel. Alors, adaptons maintenant cette réflexion au contexte du numérique, et ben on se rend compte qu'en effet, le numérique aussi cherche à créer des formes de domination économique et d'asymétrie politique, et donc le numérique des plateformes surtout, hein, le numérique qui s'articule avec les logiques de marché, avec le productivisme, l'extractivisme et tout un tas d'autres ismes, donc qui cherche à créer des formes de centralisation centralisation et des formes de dépendance qui, d'une part, mettent au travail des pans entiers de la population mondiale et de l'autre côté, le mettent hors des droits qui seraient normalement associés au travail.
Ok, pour ce deuxième extrait, qui veut réagir, compléter un petit peu, plein de mains se lèvent en studio, on fait pareil, et puis Angie, on te laisse rajouter un petit mot après si tu le souhaites. Joris, à toi la main.
Eh ben, alors moi, c'est pour réagir au tout début de l'extrait, quand il parle des GAFAM, et notamment des Natu, et enfin de Batix. C'est contre qui il faudrait s'opposer dans la démarche du MOOC. Pour les Natu, on parle de Netflix, d'Airbnb, de Tesla et d'Uber, qui sont des grands occupants de la bande passante d'Internet et grands créateurs de données. Et Batix, c'est un peu leurs équivalents à nos Google, Amazon, Facebook en Chine, qui sont donc Baidu, Alibaba et consorts. Et du coup, c'était un point d'éclaircissement que je pensais intéressant à faire.
Oui, aussi, on avait écouté... Si je peux juste retrouver son nom. Quand on avait écouté Antonio Casilli, qui parlait un peu des nouvelles techniques de domination des entreprises sur le monde. Alors, je ne suis pas un expert, mais il me semble qu'il est en train de parler un peu de néocolonialisme, colonialisme, ce genre de choses. Et du coup, puisque c'est un extrait du MOOC, est-ce que, Angie, tu pourrais nous dire si c'est des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on voit un peu en profondeur ou c'est la domination le nouveau colonialisme, quoi.
Du coup, dans la deuxième séquence de ce module, en fait, le module Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle est en trois séquences qui elles-mêmes comprennent plusieurs leçons. La première, donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt voilà, qu'est-ce que c'est qu'Internet, comment ça fonctionne, etc. Et la deuxième séquence est vraiment dédiée à ça, en fait, c'est voilà, les GAFAM, Natu, Batix, de quoi on parle, enfin les géants du web en général, qui sont-ils, voilà. Et vraiment, on a essayé d'aller quand même assez loin pour du coup avoir un maximum d'informations regroupées sur du coup ces différentes structures, enfin ces entreprises d'ailleurs. Pour utiliser le terme exact. Et ensuite, on a, à l'intérieur de cette deuxième séquence, du coup, un ensemble de leçons sur les types de domination. En fait, je crois que Laura Oufrère utilise le terme au tout début, et ensuite, bien sûr, Antonio Casilli en parle, hein, du coup, la domination, voilà, et que lui utilise le terme de colonialité, d'ailleurs, par rapport à ça. Mais voilà, nous, on a gardé ce terme-là, effectivement, de domination, à la fois technique, économique, politique, culturelle, qui effectivement fait partie de quelque chose de plus large qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Et par rapport à l'aspect de la colonialité et particulièrement du colonialisme numérique, ça dépend de quel terme on veut utiliser. Du coup, il y a un élément particulier effectivement dans le cours qui rappelle ces éléments-là, puisque du coup on a lié ça aussi à la notion, alors là c'est pas évoqué, mais de digital labor conceptualisé du coup souvent par Antonio Casilli, à savoir le travail numérique. Comment effectivement voilà toutes ces plateformes centralisatrices du coup peuvent amène du coup des nouveaux modes d'emploi numériques et comment même nous en tant qu'utilisateurs d'ailleurs on est parfois ceux qui travaillent sans le savoir ou sans en être conscient. Et puis bien sûr le changement des modèles économiques via l'ubérisation. Alors ça c'est typiquement l'acronyme NATU. Ces quatre structures sont effectivement très très fortes pour changer les modèles économiques et faire qu'en fait elles sont juste des intermédiaires entre des travailleurs et des clients, mais que on crée un nouveau modèle économique en étant une interface de mise en relation du coup entre les deux côtés, ce qui est assez nouveau dans nos modèles sociétaux.
Merci Angie de ces précisions et je pense que ça montre effectivement que pour ceux notamment qui nous écoutent, enfin en même temps ceux qui nous écoutent pas de toute façon ne le sauront pas, mais pour ceux qui nous écoutent, eh bien il y a vraiment moyen là d'aller creuser dans le MOOC peut-être des choses que nous on présente de façon un peu rapide d'habitude, là d'aller trouver, comme tu le disais tout à l'heure, des chercheurs, des praticiens qui vont avoir des choses à en dire. Alors je vous propose pour digérer ces deux premières parties et se préparer à la troisième de faire une petite pause musical, c'est parti.
I've bound them into fists, felt them countless times in the air. I sure have
Et donc, cette musique fort entraînante, qu'est-ce que c'était donc ?
Nous venons d'écouter un extrait de Forget the Whale, enfin non, toute la musique d'ailleurs, de Forget the Whale qui porte le nom de I Know Where You've Been. Donc, c'est une musique qui est libre de droit, que vous pouvez retrouver sur dogmazic.net. Et ce sont des informations que vous pouvez retrouver sur radio.picassoft.com comme d'habitude.
Et oui, radio.picassoft.net, parce que nous ne sommes pas à but commercial. Non, juste c'est parce qu'on n'a pas choisi cette extension. Sous licence CC by NC. Yoris, est-ce que tu veux nous lancer le quiz à présent ?
Eh bien oui, chauffez-vous les neurones. On va avoir un petit quiz là pour savoir si vous avez bien écouté. Alors, c'est à propos du MOOC chaton dont on vient de parler. Et il va falloir savoir si les réponses sont justes ou mauvaises. Alors donc, le MOOC chaton... Donc on a parlé, il est ouvert à tous, première solution. Il est et ou bien sponsorisé par Google. Ensuite, il est utile afin d'en apprendre plus sur Internet et les enjeux de la décentralisation. Réponse suivante, il est publié à l'aide d'outils sous licence libre et le contenu est libre lui-même. Et la dernière réponse, en plus, à la place ou avec, le MOOC permet de valider des crédits pour les UTC1. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette question quelques instants.
Eh bien, pendant qu'on réfléchit, je vous propose qu'on envoie le troisième et dernier extrait et puis qu'on se retrouve après, eh bien, comme on l'a fait précédemment, pour en parler. Et voilà, donc ça c'était la musique et maintenant voilà l'extrait. Et non, voilà le générique et voilà l'extrait.
Pour moi, il y a trois leviers qui sont essentiels et qui doivent fonctionner en même temps. Il faut qu'il y ait bien sûr le levier réglementaire qui appartient aux États. Donc il faut mettre en place des lois qui sont des lois contraignantes. Il y a ensuite, moi je suis enseignant-chercheur, donc dans enseignant-chercheur il y a enseignant, donc je crois et je suis assez convaincu que l'éducation a un rôle absolument primordial à jouer sur ces questions-là, parce que quand on sait comment fonctionne une technologie, quels sont ses enjeux, bah, du coup le potentiel de nuisance de cette technologie il est réduit d'autant et chacun l'utilise ensuite en conscience. Et puis il y a effectivement le pouvoir, le troisième levier, c'est vraiment le pouvoir de l'opinion publique, c'est-à-dire qu'on observe qu'à chaque fois que ces grandes plateformes ont opéré un recul sur des questions de société, sur des enjeux de vie privée, c'est parce que derrière il y a eu une mobilisation de l'opinion et qu'elles ont vu qu'elles allaient perdre ce qui pour elles est inconcevable des clients et des utilisateurs et que donc elles ont préféré reculer un petit peu, le temps de laisser passer l'orage en tout cas, sur un certain nombre de questions. Et donc si on arrive à jouer à la fois sur ces trois enjeux-là, c'est-à-dire la réglementation, l'éducation et puis l'opinion, on peut arriver, en s'appuyant là aussi sur des acteurs associatifs, on peut arriver à réinstaller un petit peu de j'allais dire de normalité, mais de voilà dans cet espace qui est préempté totalement par ces plateformes. Et du coup, s'installe effectivement.
Alors, on avait ce dernier extrait pour la troisième partie qui aborde les solutions. Était un extrait de donc le c'était prononcé par Olivier Hirschheid. Pardon si j'écorche son nom. Je suis plus habitué à le lire qu'à prononcer son nom. Est-ce que vous voulez réagir ou est-ce qu'Angie, tu veux nous dire quelque chose?
Bah, je vais peut-être effectivement rebondir. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'était pas du tout, enfin, dans la façon dont on a tourné les interviews, le fait que du coup nous donne le plan de cette troisième séquence de ce premier module, voilà, était pas du tout anticipé. Donc c'était assez chouette du coup de rebondir vraiment là-dessus avec ces trois leviers, effectivement, qu'on traite voilà les uns après les autres du coup dans cette partie. Ce qui est assez intéressant, c'est voilà, globalement de se rendre compte que les leviers ils existent. Il est possible, effectivement, voilà, tous les internautes de se réapproprier Internet et qu'ensuite, aujourd'hui, en fait, le déficit il vient du manque d'informations. Il vient aussi peut-être d'une défaillance d'une partie des États, effectivement, sur l'aspect régulation, hein, qui n'est pas forcément fait. Et il vient aussi de nos comportements individuels, voilà, parce que effectivement. Quand on est habitué à utiliser certains outils, il est très très difficile de déconstruire nos habitudes numériques. Voilà. Et ça, c'est voilà, on essaye de le traiter, on essaye de faire comprendre comment ça se passe et de proposer effectivement des outils ou des services qui sont des solutions pour du coup sortir de ces fonctionnements-là.
Eh bien, merci beaucoup, Angie, de ces précisions. Je pense qu'on arrive au terme de l'émission. On a fait un petit tour d'horizon. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à trouver donc sur MOOC, MOOC.chaton avec un S.org. Un article aussi du Framablog du 26 février qui présente le MOOC pour ceux qui ne sont pas tout à fait convaincus et qui veulent quand même aller vérifier un petit peu avant de se lancer. Non, mais je plaisante, tout est ouvert et donc il faut directement aller voir. Peut-être avant qu'on se quitte, Joris, la solution au quiz.
C'est ça. Alors donc, les réponses au quiz, le fait que le MOOC Chaton soit ouvert à tous, c'est une bonne réponse, bien entendu. Qu'il soit sponsorisé par Google, il se trouve que non. Fatalement, c'est en opposition à Google, donc non. Il est utile afin d'en apprendre plus sur Internet et les enjeux de la décentralisation, c'est l'objectif et vous pouvez aller vérifier par vous-même. Il a été publié à l'aide d'outils sous licence libre et le contenu est libre lui-même, c'est vrai et vrai. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec le contenu, notamment le partager et le redistribuer. Et il permet de valider des crédits pour les UTC1. Malheureusement, non, le monde n'est pas rond et rose comme un chewing-gum. On ne peut pas valider des crédits en suivant le MOOC de Framasoft pour le moment, mais peut-être que ça viendra, on ne sait pas.
Ok, eh bien, je vous remercie tous et puis on se dit au revoir et à très bientôt. Angie, à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir, merci beaucoup.
Merci encore à toi. Au revoir.
Au revoir.